L'actualité francophone en Belgique, la fin d'un procès de l'amiante après 15 ans de procédure. L'Afrique et un rapport sur une catégorie sociale peu connue, les millionnaires africains. En Suisse, l'embarras de la police qui a du mal à distinguer le cannabis légal et illégal. Et au Canada, la légalisation du cannabis est prévue le 1er juillet 2018, mais il faut encore en fixer les règles. La France, le parti socialiste au bord de l'implosion, après la décision de Manuel Valls de soutenir Emmanuel Macron lors de la présidentielle. D'abord, les personnalités de la semaine. En Afrique, Charlotte Hydrac, c'est Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, acquittée lors de son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
Oui, à la surprise générale, un coup de théâtre, le procureur avait requis la prison à vie contre celle appelée parfois la dame de fer, poursuivie pour des crimes commis pendant la crise post-électorale en 2010-2011 entre Laurent Gbagbo, le président sortant à l'époque, et l'actuel chef de l'État Alassane Ouattara. Reconnue non coupable donc, mais Simone Gbagbo reste en prison, elle purge une peine de 20 ans pour atteinte à la sûreté de l'État.
La Belgique, Anne-Sophie Brundungs, la personnalité de la semaine, c'est Delphine Boël.
Oui, cette femme de 42 ans est une artiste belge et elle affirme depuis des années que le roi Albert II est son père. Albert II, qui est le père de notre actuel roi, le roi Philippe, aurait entretenu une relation extra-conjugale avec la mère de Delphine dans les années 60. Des tests ADN ont prouvé que Jacques Boël, celui que Delphine appelait papa depuis sa plus tendre enfance, n'est pas son père biologique. Elle a donc introduit une demande en désaveu de paternité de Jacques Boël et une demande en reconnaissance de paternité du roi Albert II. Mais cette semaine, le tribunal de première instance de Bruxelles a déclaré cette demande non fondée. Delphine Boël et ses avocats iront en appel.
En France, la femme de la semaine, l'actrice Claudia Cardinal. Elle figure sur l'affiche officielle du prochain festival de Cannes. Une photo datant de 1959. Gracieuse, belle, on la voit virevoltant sur un toit de Rome. Problème, par rapport à la photo originale, on a fait des retouches numériques pour amincir l'actrice. Des militantes féministes se disent scandalisées par cette nouvelle preuve de la dictature du centimètre. Claudia Cardinal a publié un communiqué pour dénoncer une fausse polémique. Elle explique, cette affiche représente une danse, un envol. L'image a été retouchée pour accentuer cet effet de légèreté et me transpose dans un personnage rêvé. C'est une sublimation, ajoute la comédienne. En Suisse, Michael Pecker, vous avez choisi Fatih Derder, un parlementaire fédéral, désormais aussi rédacteur en chef de journal.
Fatih Derder, conseiller national vaudois issu du parti libéral radical proche des milieux économiques, prend les rênes de l'AGFI, le quotidien économique de Suisse romande. Politicien et journaliste, une double casquette qu'assume parfaitement le principal intéressé. Il n'y a pas incompatibilité entre les deux fonctions, estime-t-il. Un parlementaire rédacteur en chef, c'est rare, mais pas inédit en Suisse, à la tête de la Weltwoche. Hebdomadaire alémanique, le Zurichois, Roger Köppel siège aussi sous la coupole fédérale pour le compte de l'UDC, parti nationaliste de droite.
Au Canada, Raphaël Bouvier-Auclair, vous retenez une grande dame du théâtre décédée cette semaine.
Jeannine Suteau est morte à l'âge de 95 ans, figure très connue dans le milieu du théâtre. Madame Suteau est née à Paris en 1921 et elle est déménagée au Québec assez jeune. C'est donc au Québec qu'elle a entamé sa longue carrière au cours de laquelle elle a diverti le public pendant des décennies au théâtre, à la télévision et au cinéma. En 1968, Madame Suteau a participé à la première lecture publique de la pièce bien connue Les Belles Sœurs de Michel Tremblay et elle faisait à nouveau partie de la distribution quand une nouvelle version a été présentée sous forme de comédie musicale il y a quelques années ici au Canada, mais aussi à Paris. Les hommages se sont multipliés cette semaine.
L'actualité en Belgique, Anne-Sophie Brundungs, la fin d'un procès qui aura duré 15 ans, le procès Amiante.
La Cour d'appel de Bruxelles a confirmé cette semaine la responsabilité de la firme Eternit dans la mort de Françoise Jonker. Début des années 2000, cette femme est décédée des suites d'un cancer attribué à l'amiante, la poussière du diable. Son mari et deux de ses fils ont également perdu la vie. En cause, la société Eternit, donc spécialisée dans les matériaux de construction de toits et façades. Cette firme qui utilisait de l'amiante était autrefois établie dans la commune de Kappel Op den Bos, où vit la famille Jonker. La Cour a estimé dans son arrêt que l'entreprise savait depuis les années 70 que l'amiante était hautement cancérigène et qu'elle n'a pas pris les mesures de sécurité adéquates afin de protéger non seulement ses travailleurs, mais aussi les riverains de l'usine.
En revanche, Anne-Sophie, les dommages et intérêts ont été divisés par 10.
Oui, ils sont passés de 250 000 euros à 25 000 euros. Eric Juncker, un des fils de la famille.
Nous ne sommes pas dans un tribunal new-yorkais où on est à la recherche de millions. Nous, c'était la responsabilité qui était importante. Bien sûr, on peut se dire que voilà, la vie d'une dame veuve, ayant pris connaissance que ses 5 enfants étaient contaminés à l'amiante, ben tout ça, ça ne vaut que 25 000 euros.
En première instance, le juge avait estimé que toute la famille devait être indemnisée. La cour d'appel a, elle, considéré que seule Françoise Juncker était concernée, puisque c'est elle qui avait introduit l'action en justice il y a 17 ans.
En Suisse, Michael Pecker, la semaine a été marquée par une nouveauté, le cannabis légal.
Oui, une vague verte déferle sur la Suisse. Particularité de ce cannabis légal, il contient moins de 1% de THC, la substance qui fait planer, un taux dans les normes autorisées qui permet la commercialisation du produit. Problème, impossible de distinguer à première vue le cannabis légal de son cousin illégal. Texture, odeur, couleur, les deux sont identiques. Un véritable casse-tête pour les autorités. Olivia Kutruzzola, porte-parole de la police cantonale vaudoise.
Ça pose un certain nombre de difficultés opérationnelles et c'est clair que si on pouvait disposer d'un test de dépistage rapide. Ça permettrait aux policiers sur le terrain de contrôler immédiatement la teneur en THC de la marchandise. Et c'est vrai que de pouvoir disposer d'un tel test faciliterait le travail.
Mais Michael, un tel test n'existe pas.
Non, les forces de l'ordre présentes sur le terrain doivent juger au cas par cas. En cas de doute sur la légalité de son joint, le consommateur recevra une amende de 100 francs suisses, une sanction à laquelle il pourra toutefois s'opposer. Olivia Kutruzzola.
Le policier va proposer de faire analyser la marchandise. Et c'est seulement par le biais de cette analyse qu'on connaîtra réellement la teneur en THC du produit. Ça peut aller jusqu'à 600 francs l'analyse. C'est clair que ce sont des coûts importants. C'est pourquoi l'analyse ne se fera pas de manière systématique.
Des policiers donc plutôt démunis, embarrassés par l'arrivée de cette nouvelle herbe. L'air suisse n'embaume pas encore autant que certaines rues d'Amsterdam. Mais les autorités restent vigilantes. Elles feront le bilan du phénomène dans quelques mois.
La légalisation du cannabis encore, mais au Canada. Ce sera fait d'ici le 1er juillet 2018. Raphaël Bouvier-Auclair, des détails ont circulé cette semaine sur les règles qui entoureront cette légalisation.
Voilà, ce qu'on a appris cette semaine, c'est qu'au mois d'avril, le gouvernement devrait présenter un projet de loi au Parlement qui permettrait donc de légaliser la consommation récréative de cannabis avant la fête du Canada de 2018. Ce projet était une promesse importante du Parti libéral du premier ministre Justin Trudeau lors de la dernière campagne électorale. Donc, selon les informations qui circulent, l'achat serait réservé aux personnes majeures, donc de plus de 18 ans. Le gouvernement fédéral établirait des normes de qualité et les provinces seraient responsables de la distribution et de la vente. Il serait également possible de faire pousser une quantité limitée de cannabis à la maison. La ministre de la Santé du Canada, Jane Philpott, est très prudente et parle de l'importance d'éduquer les Canadiens sur ce sujet. On l'écoute.
Le fait qu'un produit est légal ne dit pas que le produit est, que c'est sage pour tout le monde de l'emploi et ça ne dit pas que c'est sans risque.
Ce projet, Raphaël, soulève encore bien des questions.
Oui, des zones d'ombre demeurent, surtout qu'il y a encore peu de pays dans le monde qui ont légalisé le cannabis sur l'ensemble de leur territoire. L'une des grandes questions, c'est quelles mesures seront prises pour détecter la consommation de cannabis chez les conducteurs? Est-ce qu'il y aura des limites imposées ou bien on ne tolérera aucune trace de cannabis dans le sang? D'autres questions persistent, notamment sur les moyens qui seront utilisés pour aider les employeurs à contrer la consommation au travail, notamment dans des milieux dangereux comme les chantiers de construction. Plus de réponses sont attendues lors du dépôt du projet de loi au cours des prochaines semaines.
En France, l'ancien Premier ministre Manuel Valls à la une de la presse. Il était candidat fin janvier lors de la primaire socialiste. Il a été battu par Benoît Hamon. Valls avait promis de soutenir le vainqueur. Il n'a pas tenu parole. Mercredi matin, il annonce qu'il votera dès le premier tour de la présidentielle pour Emmanuel Macron. Manuel Valls explique ce choix.
Face à la crise de la gauche et à la marginalisation de notre candidat, du candidat désigné par la primaire Benoît Hamon. Et je n'accepte pas la marginalisation de la gauche du gouvernement, de la gauche progressiste, de la gauche réformiste. C'est ce qui est en train de se passer. C'est l'échec de sa stratégie après la désignation par la primaire. Parce que je veux que la famille progressiste soit toujours forte, soit toujours représentée, pèse dans la situation que nous connaissons. Parce qu'il y a un risque, parce que c'est quand même ça qui me fait agir d'abord, parce qu'il y a d'abord un risque de victoire du Front National.
Réaction dans le camp Hamon, débordé d'injures, trahison minable, comportement indigne, écœurant, sans honneur. Ce choix de Manuel Valls entérine au Parti Socialiste le divorce entre deux gauches irréconciliables. L'une, celle d'Hamon, contestataire, utopiste, l'autre, celle de Valls, réaliste, gestionnaire. Ce divorce annonce peut-être l'implosion du Parti Socialiste fondé en 1971. Emmanuel Macron a accueilli le soutien de Manuel Valls avec un sobre remerciement. L'ancien Premier ministre de François Hollande pourrait être un allié encombrant. À droite, on proclame qu'Emmanuel Macron n'est autre que le candidat recyclé du système Hollande-Valls. Quand il parle d'Emmanuel Macron, le candidat de la droite François Fillon l'appelle désormais Emmanuel Hollande. En Afrique, le sujet de la semaine, Charlotte Hydrac, les riches sont de plus en plus nombreux sur le continent africain. C'est ce que révèle un rapport publié par l'Institut New World Wealth et la banque Afrasia.
Oui, contrairement à certaines idées reçues, il y a pas moins de 145 000 millionnaires sur le continent. 7 000 sont même multimillionnaires et ces grosses fortunes possèdent au total 800 milliards de dollars. Alors, où vivent-ils? L'Afrique du Sud arrive largement en tête, suivie de l'Égypte, du Nigeria, du Kenya et de l'Angola. En Côte d'Ivoire, on compte 2500 millionnaires. Ils sont 600 au Rwanda, idem en République démocratique du Congo. Et ils sont de plus en plus nombreux, plus 19% en 10 ans. La progression est spectaculaire à Maurice, plus 230%. Le pays bénéficie de sa croissance économique et sans doute de sa douceur de vivre.
Charlotte Hydrac, que font-ils de leur argent ces millionnaires?
Alors ils le placent dans l'art, le bon vin, les voitures de collection. Ce qui marche bien aussi, ce sont les montres de luxe, comprenez minimum 10 000 dollars pièce. Le marché représentait 13 millions de dollars en Afrique en 2006, 46 millions en 2016. L'immobilier reste une priorité pour ces privilégiés. Ils consacrent en moyenne entre 25 et 30% de leur richesse à leur propriété. Et plus d'un tiers possède une résidence secondaire à l'étranger. Londres, New York et Genève sont particulièrement appréciés. Et pour y aller, le plus simple, c'est le jet privé. 160 multimillionnaires en possèdent un en Afrique du Sud, 90 au Nigeria et 50 en Égypte.
C'était l'actualité francophone. N'oubliez pas notre site, lesmediafrancophones.org. À la semaine prochaine.